Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et ce matin, nous allons vous aider à motiver vos enfants à l'école, leur donner l'envie d'avoir envie, leur donner l'envie d'apprendre, encourager leur motivation, allumer le feu de leur curiosité, susciter leur intérêt, comment les enthousiasmer pour des matières qui les intéressent a priori modérément, comment expliquer que certains enfants éprouvent une joie sans pareille à l'idée d'aller à l'école alors que d'autres traînent les pieds, avec au mieux une indifférence polie pour les cours et au pire un ennui abyssal qui peut conduire à un décrochage scolaire. Pourquoi certains professeurs savent susciter la curiosité de leurs élèves? Je me souviens de M. Santamaria, déjà cité ici, qui avait le don de nous faire aimer l'économie, Adam Smith, Schumpeter, Ricardo, comme s'il s'agissait des trois mousquetaires. Nos experts vous écoutent ce matin au 01 45 24 7000. Vous pouvez laisser un message ou une note vocale sur l'appli France Inter. Les enfants et les adolescents peuvent également témoigner ce matin. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Tous les mercredis, vous nous proposez la chronique Ma vie de parent, consacrée à l'éducation, à la parentalité, à la famille, sans jamais nous culpabiliser. Et ce matin.
Et ce matin, on va coller un petit peu au thème, on va être dans les devoirs à la maison.
Ah, super, ça promet. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Et on va donner envie d'avoir envie à nos enfants, envie d'apprendre, en compagnie de plusieurs invités. Bonjour Jean-Luc Aubert.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Vous avez été enseignant et psychologue scolaire et vous publiez chez Odile Jacob un livre très intéressant, Comment motiver son enfant à l'école, sous-titré, lui donner envie d'avoir envie. Et vous animez une chaîne YouTube, Question de psy. Bonjour Didier Pleu.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien, et vous avez notamment publié « Peut mieux faire, remotiver son enfant à l'école », c'est chez Odile Jacob. Bonjour Cécile Lavert.
Bonjour.
Vous êtes enseignante et coordinatrice du projet pédagogique annuel de l'école Vitruve à Paris. Vous nous raconterez tout à l'heure ce projet, le projet de cette école un peu particulière. Alors Jean-Luc Aubert, le manque de motivation, c'est l'un des motifs récurrents de consultation dans votre cabinet.
Oui, ça revient souvent effectivement. Les parents se plaignent de ça. L'enfant, lui, jamais. Hein, il est en consultation, il se demande pourquoi. Mais les parents, eux, savent très bien pourquoi. Non, il faut savoir que la motivation, c'est quelque chose de naturel d'abord chez l'enfant. Il y a trois types de motivation. Il y a la motivation naturelle dont on va parler aujourd'hui, précisément, la motivation élective qui concerne un sujet particulier, une discipline particulière, et la motivation névrotique ou réparatrice qui est là pour réparer un manque qu'on a connu dans son enfance. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, on est bien d'accord, c'est la motivation naturelle. Il faut savoir qu'au départ, le bébé, le tout petit, a besoin d'apprendre. Il a d'abord besoin d'apprendre. Pourquoi il a besoin d'apprendre? Vous allez me poser la question.
Eh oui.
Il a besoin d'apprendre pour devenir autonome, pour devenir indépendant. C'est autrement, s'il n'apprenait pas à maîtriser son corps, à maîtriser ses gestes, à maîtriser son environnement, il serait toujours dépendant de son parent. Donc il a absolument besoin de cela. Et pour cet apprentissage, il a une pulsion qui va l'aider. Alors j'ai un terme un petit peu technique.
Un peu technique, allez-y.
C'est la pulsion épistémophilique.
Expliquez.
La pulsion épistémophilique, c'est justement cette propension naturelle qu'a l'enfant à faire un certain nombre de gestes. On va prendre un exemple tout bête. Le bébé, dans son berceau, il fait un certain nombre de gestes. Il bouge ses pieds, ses doigts, il met à sa bouche, il touche ceci, il touche cela. Et ensuite, il va commencer à ramper, à se mettre assis. Il a toutes sortes de gestes naturels, spontanés, et qui vont le préparer à marcher, à devenir autonome sur le plan de la marche. Et ensuite, il va avoir un certain nombre de gestes qu'il va maîtriser grâce à ces gestes spontanés. Personne ne le force à faire ça. On va prendre un autre exemple simple que tous les parents connaissent. C'est à 3-4 ans, l'enfant qui pose un certain nombre de questions. Pourquoi si? Pourquoi ça? À quoi ça sert? C'est pourquoi faire? Tous les parents connaissent cette phase-là. Eh bien, si, justement, il a besoin de savoir, de connaître son environnement, de l'appréhender. Alors, si on apporte une réponse globalement satisfaisante, pas parfaite, mais globalement satisfaisante à ces questions-là, il va y avoir du plaisir. Et comme il y a du plaisir, il va avoir envie. On passe du besoin, c'est comme ça qu'on passe du besoin à l'envie. Vous voyez, parce qu'il y a du plaisir à la réponse apportée. Et à ce moment-là, il va avoir envie d'apprendre. Envie qui va se transférer à l'école.
Alors, la motivation, c'est ce qui pousse quelqu'un à agir. L'étymologie du mot motivation vient du latin motivus, mobile, et movere, se mouvoir. Didier Pleu, la motivation, c'est un phénomène qui puise à plusieurs sources, il existe plusieurs facteurs. Alors, il existe la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est quand nous agissons sans attendre de récompense, hein, c'est ça ?
Oui, ben la motivation intrinsèque, c'est ce que l'on disait. Ça peut être effectivement cette volonté de l'enfant d'apprendre par plaisir, mais moi, ça m'inquiète un petit peu, parce que je sais aussi que la motivation du tout-petit, de l'enfant, de l'ado, comme de l'être humain en général, c'est effectivement avoir du plaisir. Et le problème, c'est que les apprentissages sont pas toujours plaisants. On en reparlera. Donc, effectivement, motivation intrinsèque, je vais à l'école pourquoi ? Pour ma curiosité, pour apprendre, pour mon avenir. Mais si la motivation interne, c'est jouir de la vie constamment, être dans le plaisir et dans le fun, dès qu'on sort à une difficulté, à une contrainte, un apprentissage difficile, ça ne marche plus. Donc, dans ce cas-là, on a besoin d'une motivation extrinsèque. Et c'est ce que je dis souvent aux parents. C'est un peu comme dans la chanson de Johnny, donc donnez-lui l'envie d'avoir envie. C'est-à-dire, parce que lui, a priori, il y a des enfants qui aiment ça, mais il y a des enfants qui détestent ce qui est contraignant et qui sont très vulnérables devant ce qu'on m'a toujours dit, devant les frustrations, tant leur principe de plaisir est exacerbé.
Jean-Luc Aubert, sur cette motivation intrinsèque et cette motivation extrinsèque, la motivation extrinsèque, je le rappelle, c'est quand c'est lié à un comportement, on dit à l'enfant, tu pourras par exemple jouer aux jeux vidéo, aller sur Instagram, si tu fais ceci ou cela.
Ouais, hein. C'est l'autre qui vient motiver dans ce cas-là. Mais il faut savoir qu'effectivement, si l'on considère l'apprentissage scolaire, la motivation, c'est le starter. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il faut 5 atouts pour réussir à l'école globalement. Il faut 5 atouts. C'est d'abord être motivé dans un premier temps. Ensuite, être disponible psychiquement. Ça veut dire quoi ? Être disponible psychiquement, il faut avoir son énergie psychique mobilisée par des soucis conscients ou inconscients. Ensuite, il faut un certain nombre d'atouts culturels au préalable, c'est-à-dire le langage en particulier. C'est très important, y compris en maternelle. Il faut un minimum d'atouts cognitifs qui sont mesurés éventuellement par le QI. Et enfin, il faut une capacité minimale à faire des efforts. C'est les 5 atouts qu'il est nécessaire pour faire un apprentissage. Le premier, effectivement, c'est la motivation. S'il est là, c'est un moteur puissant qui va donner l'énergie nécessaire pour s'investir dans les apprentissages.
Alors, vous débutez votre livre par les parents.
Oui. Oui, bah oui, parce que voilà, tout dépend de l'accompagnement de ce besoin naturel d'apprendre de l'enfant. Je l'ai dit, il a un besoin naturel d'apprendre, besoin de maîtriser son corps, besoin de maîtriser ses gestes, besoin de connaître son environnement. On va prendre un autre exemple pour mesurer ça. Le langage en particulier chez l'enfant, il y a un certain nombre de prolégomènes, de préalables qui vont l'amener à parler correctement. Le bébé dans son berceau, il fait un certain nombre de bruits avec sa bouche, il fait des lalations, des choses comme ça. Très spontanément, c'est toujours cette pulsion, cette fameuse pulsion épistémophilique qui le pousse naturellement. Réellement faire ça. Ensuite, il commence à prononcer quelques mots. Si le parent, dès le départ, parle au bébé dans son berceau, parce qu'il parle au bébé à sa façon, avec son corps, avec ses gestes, mais aussi avec ses mots. Si ensuite, dans le langage qu'exprime l'enfant, le parent lui parle, lui répond, l'accompagne, eh ben, il va y avoir du plaisir à parler. Et à ce moment-là, le langage, le dialogue va se mettre en place. Et le dialogue avec l'enfant, c'est un des éléments fondamentaux de l'éducation. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans le dialogue, je vous écoute, tu m'écoutes, on s'écoute, etc., etc. Cette écoute qu'on va mettre en place dans le dialogue de l'enfant, ben, elle va aussi se transférer à l'école et ailleurs. Mais s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cet accompagnement de ce langage qui s'ébauche dès le plus jeune âge, ben, l'enfant n'aura pas de plaisir à échanger, n'aura pas de plaisir à dialoguer. Et ce sera pénalisant non seulement pour lui à l'école, mais aussi dans la société.
Ça peut être culpabilisant pour les parents de se dire que cette envie d'apprendre repose énormément sur ses épaules.
Oui. Mais je précise que allez-y.
Non, ça repose sur les épaules des parents, mais aussi beaucoup de l'école. C'est quand même le rôle et la mission de l'école, quand même, de donner envie d'apprendre. Et je dis apprendre, mais il y a savoir et apprendre. C'est-à-dire que je pense que la plupart des enfants ont envie de savoir, d'avoir des réponses à leurs questions. Vous en parliez tout à l'heure. Donc, ils ont plein de questions, qu'elles soient techniques, qu'elles soient métaphysiques, etc. Ils ont envie de savoir. Après, entre l'objectif savoir et le chemin qui va permettre d'arriver à ce savoir, c'est-à-dire apprendre, c'est là où il va falloir. Alors, il y a la notion de on parle de motivation, mais de mobilisation, moi, je dirais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mobiliser en termes d'efforts, en termes de gratification qui va pouvoir arriver à la fin? Qu'est-ce qu'on va mobiliser chez l'enfant pour arriver à ce savoir en ayant fait justement l'effort nécessaire?
Je reviens à ce que vous disiez, Alice, à propos du parent. J'insiste bien, il n'y a pas de parent parfait. Je le dis dans une de mes chroniques YouTube. Le parent parfait est un parent un peu imparfait. C'est-à-dire que quand il faut accompagner globalement l'enfant dans sa pulsion épistémologique, c'est globalement. Ça veut dire qu'on peut avoir des faiblesses, des tensions, des énervements. C'est pas gênant. Au contraire, ça participe aussi de l'éducation. Et éduquer l'enfant à nos fragilités, c'est aussi l'éduquer à se confronter à la société ultérieurement. Donc le parent parfait n'existe pas et il n'est pas souhaitable. Donc c'est une réponse globalement satisfaisante. Si on répond globalement bien aux questions de l'enfant, il aura du plaisir à découvrir, du plaisir à apprendre. Si quelquefois on ne le fait pas, c'est pas bien grave.
Didier Pleu.
Oui, c'est, par rapport à cette notion de plaisir, je suis toujours un petit peu frileux là-dessus, parce qu'on est tous d'accord. Moi, j'adorais le français parce que j'adorais ma prof de français. Et je n'aimais pas trop les maths parce que je détestais mon prof de maths. Mais c'est justement ça le hic, c'est que dans l'apprentissage, j'ai déjà dit, il y a du déplaisant. Donc moi, je me méfie toujours des pédagogies bienveillantes qui adaptent l'environnement scolaire à l'enfant, à l'ado, en disant, bah, comme ça, il aura plus de plaisir à apprendre. Mais il n'y a pas de plaisir quand on fait du solfège pour exceller en instrument de musique. Il n'y a pas de plaisir quand on s'entraîne excessivement pour un sport qu'on a choisi. Il n'y a pas de plaisir à apprendre des verbes irréguliers en anglais. Il n'y a pas de plaisir à lire Proust au départ. Donc c'est là qu'il faut aider l'enfant. C'est là qu'il faut aider l'adolescent et l'apprenant. Quand tu n'as plus cette notion de plaisir et de curiosité, il y a quand même des choses incontournables à apprendre et qui sont pas sympas. Est-ce qu'on peut t'aider ? C'est là qu'on parlera sans doute des stratégies à leur proposer.
Votre regard d'enseignante, Cécile Lavert.
Oui, je suis d'accord avec Monsieur Pleu. La notion de plaisir, elle n'enlève pas la notion d'effort. En fait, le but de l'apprentissage, il faut simplement qu'il soit connu de l'enfant. C'est-à-dire que si il a un projet qui donne du sens et qui sait pourquoi il doit apprendre telle ou telle chose qui demande un effort et qui sont contraignantes, il va trouver la motivation nécessaire parce qu'il sait que c'est un moyen d'aboutir. Et aussi, il faut savoir qu'il y a l'école, mais il y a aussi les autres enfants autour de lui. Et apprendre seul avec les autres, en fait, c'est ce qui est important, de comprendre ce que c'est que la coopération, de comprendre de ce que c'est que l'entraide, et de ne pas se trouver seul face aux choses qu'on ne sait pas faire. Par exemple, il y a des enfants qui arrivent et qui ont un prérequis, ils se disent « moi, je ne sais pas compter, je suis nul en maths », et se dire que bah, déjà, non, on a besoin d'apprendre, et puis qu'on peut compter sur les autres pour pallier à ces manques le temps qu'on arrive à progresser dans ce domaine. Et la pédagogie de projet, la pédagogie collaborative, et où on inclut aussi dans les projets les familles et l'école, cette notion un peu éducation globale, c'est aussi ce qui fait progresser les enfants. Donc ne pas saucissonner les apprentissages justement en discipline, mais plutôt en outils dont on a besoin pour arriver à un projet social. On apprend pour faire des choses pour de vrai.
Jean-Luc Aubert.
Oui, enfin, c'est vrai. Mais d'une certaine façon, c'est vrai que tout le monde a envie de savoir avant d'apprendre. C'est vrai qu'on a envie de savoir conduire, mais il faut apprendre à conduire. On a envie de savoir lire, mais il faut apprendre à lire. Et ça, en fait, l'apprentissage et l'acceptation de l'apprentissage se fait aussi à travers l'acceptation de la frustration. C'est typiquement cela. C'est-à-dire qu'il faut... Mais la frustration, elle se met en place très naturellement. J'allais dire, par exemple, quand le bébé a soif, le parent est pas forcément tout de suite disponible, c'est une frustration. Il va attendre un tout petit peu pour avoir le biberon. Voilà. Si véritablement l'enfant a un apprentissage de la frustration à travers le non, quelquefois, ça va l'aider à apprendre.
Didier Pleu, Jean-Luc Aubert, vous enlève le pain de la bouche, le pain de la frustration. C'est votre grand thème, je le rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas.
Je vais plus employer ce mot-là, parce qu'effectivement, il est frustrant ce mot-là. Mais là où je suis pas du tout d'accord, c'est que la frustration ne s'apprend pas naturellement. C'est là le X. Souvenez-vous ce que nous disent les neurosciences à ce fameux noyau à cubins de striatome. L'humain est vraiment motivé par le plaisir. Et le problème, c'est que dès qu'il y a un principe de réalité, une frustration, ça ne marche plus. Donc non, il va falloir aider l'enfant, l'ado, apprenant, accepter la frustration. Elle n'est pas naturelle, si elle était naturelle.
Ah non, elle n'est pas naturelle, elle ne s'apprend pas, mais elle se vit. Elle se vit.
Alors Jean-Luc Aubert, vous l'avez dit, les enfants nous abreuvent de pourquoi, de comment et de quoi, à quoi ça sert. Un enfant n'est curieux, il y a une période très importante entre 0 et 7 ans. Mm-hmm. On peut parler de pulsion de curiosité. Quelles sont les activités qui permettent de répondre à cette pulsion de curiosité ?
Eh bien, la première des activités que va pratiquer l'enfant, c'est le jeu. C'est-à-dire que, fort heureusement, tous les enfants aiment jouer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pulsion épistémophilique, justement, elle pousse naturellement à faire un certain nombre de gestes, d'activités, d'interactions, naturellement, il n'y a pas besoin d'aller vers l'enfant pour le faire. Le jeu, par exemple, il n'y a pas besoin de le pousser pour jouer. Il va jouer très naturellement, très spontanément. Le tout, justement, il faut que ces jeux soient adaptés à son âge. Là aussi, c'est important. Il ne s'agit pas de lui donner des jeux qui soient complètement inadaptés à son âge. Mais voilà véritablement le type d'activité qui va lui permettre. Il y a des jeux éducatifs, des jeux de société, des jeux psychomoteurs, enfin des jeux divers et variés, des jeux de société qui vont, tout cela va l'aider dans sa démarche d'apprentissage de l'autonomie.
Et que faire si on se sent démuni face à ces questions? Si un enfant demande comment fonctionne le moteur d'une voiture et qu'on n'y connaît strictement rien,
c'est mon cas.
C'est mon cas également. Comment on fait quand on est démuni? Il faut essayer d'apporter une réponse, de la chercher avec l'enfant. Cécile Lavert.
En fait, il faut pas lui apporter la réponse, il faut lui donner les moyens de trouver la réponse et de pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas.
Et de s'intéresser à sa question.
Et de parfois la différer. On a le droit de différer, on a le droit de dire qu'on ne sait pas, mais par contre, on l'aide à trouver les moyens d'y répondre. Donc c'est ça, en fait, l'école, on n'est pas un sachant qui apprend à des têtes vides, on essaie de mettre en place des situations et des outils qui le rendent acteur et chercheur. Et qu'il se rende compte qu'il a les moyens de trouver les réponses par lui-même, à la mesure de son âge, évidemment. Et que ces outils, c'est une vraie éducation, et c'est ça l'école. C'est qu'il faut lui apprendre à chercher. Et avec des sources intéressantes et pas faciles.
Oui, mais même si on n'a pas la réponse, on lui répond quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, on lui dit, je ne sais pas, on va peut-être chercher ensemble, ça peut être une démarche possible, ou éventuellement tu demanderas. Mais il y a quand même une réponse, même en lui disant je ne sais pas, il y a quand même une réponse. Et donc là, il y a un dialogue, il y a un échange.
Gonaïve Boulay.
Oui, parce que je trouve que c'est intéressant dans le cadre de la famille, en tout cas, c'est de voir qu'on a des sources d'intérêt qui sont très différentes. Mmh. Et je trouve qu'effectivement, l'école met en place un certain nombre d'apprentissages des savoirs, qui essayent d'être les plus variés possibles. Actuellement, on a beaucoup de choses qui se présentent, mais quand même, on est beaucoup sur l'apprentissage de la langue, du français, des mathématiques, ce qui est nécessaire, et puis il y a d'autres choses. Mais je trouve de pouvoir dire à un enfant à un moment donné, quoi, t'aimes la mécanique? Alors moi, j'y connais rien du tout. Puis alors, franchement, j'avoue que ça m'intéresse pas, mais je trouve ça... Et là, d'aller trouver des personnes ressources, le grand-père, le tonton, j'en sais rien, qui va pouvoir partager cette passion avec lui, de voir que peut-être ce n'est pas quelque chose dont on parle à l'école, qui est exposé à l'école, mais que en soi, c'est une ressource, c'est une richesse qu'il ait cette passion qui n'est peut-être pas celle de la famille. Ça, je trouve que c'est très intéressant aussi, de montrer cette originalité, de sa curiosité.
Et là encore, c'est une frustration vécue. On n'a pas une réponse tout de suite. Il faut attendre. Voilà, la frustration se vit, elle ne s'apprend pas. Je suis d'accord avec Monsieur Pleu sur ce sujet-là.
Didier Pleu.
Oui, la frustration, elle s'apprend, elle ne se vit pas, forcément, on la subit quand on la vit, mais elle s'apprend quand on n'est pas vraiment tolérant pour elle. Mais je reviens sur cette tentation de toujours transformer l'apprentissage en jeu, l'apprentissage ludique, cette espèce de choses un peu positives. Mais souvenons-nous, et un de vos interlocuteurs l'a dit, moi je suis très pelagicien, il n'y a pas d'apprentissage sans déséquilibre, sans conflit, sans difficulté, c'est ce qu'il appelait l'accommodation. Sinon, c'est du copier-coller, c'est de l'assimilation passive. Et c'est ce déséquilibre, cette accommodation qui permet ce qu'il appelait, lui, une équilibration majorante. Donc, on est bien d'accord qu'il faut que celui qui apprend, celui qui enseigne, ne soit pas simplement dans une espèce d'horizontalité pédagogique bienveillante, sympathique et ludique, mais dans une autorité qui transmet, qui parfois déplaît, qui n'est pas dans la séduction, qui n'est pas dans la démagogie. Donc c'est ça qu'il faut lier, non pas les blouses grises d'antan avec le maître qui avait raison et qui décidait de tout sans respecter la singularité de l'enfant, mais est-ce qu'on peut faire un mix entre une certaine autorité traditionnelle de transmission du savoir déséquilibrante, conflictuelle, et ce que l'on sait de la pédagogie bienveillante dans le sens respect de l'enfant, empathie, une certaine horizontalité et découvrir les goûts de l'enfant. Je crois qu'on peut faire un mix des deux. C'est ni l'un contre l'autre, c'est pas l'un contre l'autre en tout cas.
Didier Pleu, je suis un peu dur d'oreille ce matin, vous avez dit vous êtes très quoi ?
Piagétien.
Ah, voilà.
Piagé.
Voilà, parce que j'avais pas bien compris. Cécile Lavert, vous vouliez réagir ?
Alors oui, effectivement, l'apprentissage c'est difficile, ça peut être vécu comme quelque chose de difficile, il y a des contraintes, il y a des enjeux pour les enfants, et évidemment c'est pas passé par le jeu, en tout cas nous à l'école primaire
Vitruve,
à l'école Vitruve, c'est pas passé par le jeu, la notion de plaisir elle est pas dans le plaisir immédiat, elle peut être atteinte si on est content du travail et des efforts qu'on a fournis collectivement. On dit souvent qu'on apprend seul mais avec les autres, et que justement il y a des contraintes fortes et c'est beaucoup plus exigeant parce que on se fixe des objectifs, on est responsable devant le groupe, on peut se faire aider par le groupe, mais comme on fait les choses pour de vrai, il y a une obligation à rendre compte. Puisqu'on ne fait pas, on n'écrit pas une lettre pour écrire une lettre comme dans le manuel, mais on écrit une lettre parce qu'on a besoin d'écrire, parce qu'on demande à une salle de nous prêter la salle ou de la louer. Et donc tout ça, c'est gratifiant, mais c'est beaucoup d'efforts et c'est très contraignant, effectivement.
Jean-Luc Aubert acquiesce.
Oui, oui, absolument. Mais là, vous êtes dans le cadre de l'école. Il y a un effet d'entraînement du groupe qui fait que ça permet de mettre ça en place. Dans la famille, c'est beau, la relation est beaucoup plus en dualité et c'est quelquefois un peu plus complexe. Non, véritablement, tout ça, c'est complémentaire. J'allais dire que quand on parle de la motivation, effectivement, elle se met en place essentiellement à la maison, mais effectivement, à l'école aussi, il y a un relais qui est assuré. Et en dehors des enseignants eux-mêmes, il y a le programme aussi, il y a le menu qui est proposé à l'enfant. Et quelquefois, le menu n'est pas toujours très, très appétissant.
Tiens, justement, Cécile Lavert, quelle est la particularité de cette école publique, hein,
oui,
publique primaire, l'école Vitruve à Paris? Et racontez-nous en quelques mots. Elle existe depuis...
Elle existe depuis 1962.
Voilà,
elle a été mise en place par un inspecteur qui s'appelait Monsieur Gloton dans le 20e, quand il y avait de grosses difficultés scolaires dans le quartier. Et il a demandé à des équipes qui étaient intéressées pour travailler ensemble, pour trouver une solution à l'époque. Et cette équipe a perduré depuis 1962. Évidemment, ce ne sont pas toujours les mêmes.
Vous étiez déjà dans 62.
Vous avez vu.
Vous avez une forme incroyable.
C'est ça, une forme incroyable.
Ça conserve la pédagogie.
Mais du coup, c'est un travail d'équipe, d'expérimentation, de remise en question. Et en fait,
quelle est la philosophie?
L'idée, c'est de responsabiliser les enfants, de ne pas saucissonner les temps d'apprentissage. Déjà, par exemple, la journée, les enseignants font la cantine, font l'étude. Pas comme dans les écoles. Enfin, il y en a qui peuvent le faire, mais ça fait partie du projet de l'école pour que les temps de l'enfant, il puisse prendre en responsabilité la totalité de l'école sur tous les temps de la journée. Et le travail en projet qui donne du sens aux apprentissages. Et les enseignants ne découpent pas l'emploi du temps en matière, mais sortent les compétences des programmes du projet des enfants.
Tiens, dans ce sens, écoutons une note vocale que nous a envoyée Marie de Niort.
Bonjour à tous. Alors moi, ce que je faisais avec mes deux enfants qui sont jumeaux, quand ils étaient plus jeunes, aujourd'hui ils ont 13 ans, c'est que j'adaptais à des situations de la vie quotidienne les leçons en fonction des matières. Donc par exemple, quand on était sur des révisions de chimie, je pouvais par exemple utiliser une recette de cuisine. Quand on était sur de la géo ou de l'histoire, si c'était possible géographiquement, on se déplaçait dans la ville pour visiter certains monuments historiques en lien direct avec la leçon. Les mathématiques, ça pouvait être des origamis ou utiliser les Lego ou les Playmobil, hein, de manière à rendre ludique l'apprentissage et d'éviter la phrase « à quoi ça va me servir plus tard ?»
C'est une maman parfaite, Cécile Lavert.
Bah alors effectivement, elle a beaucoup de temps et c'est bien pour ses enfants. En fait, c'est ce qu'on essaye de faire aussi à l'école. En fait, en partant du projet, c'est la notion de sens et de tirer l'apprentissage pour donner du sens enfin, on en a besoin pour notre projet.
Jean-Luc Aubert.
Oui, je voudrais quand même rassurer les parents qui nous écoutent par rapport à ça. Il ne s'agit pas effectivement d'être au top. Je le disais tout à l'heure, le parent parfait est un parent un petit peu imparfait. C'est nécessaire même pour l'éducation de l'enfant. Non, mais il faut savoir qu'au niveau le plus simple, j'allais dire, on fait la cuisine ensemble, on fait des courses ensemble, on se promène ensemble. Tiens, tu as vu le merle sur l'arbre, etc. Ce genre de petites choses au quotidien, les actes tout à fait simples vont motiver l'enfant. Justement, on accompagne son plaisir de découvrir, son envie de découvrir. On l'accompagne, mais c'est à travers des choses très très simple. Moi, j'ai observé dans ma pratique de psychologue scolaire et psychologue clinicien aujourd'hui, j'ai toujours fait un parallèle entre, on me disait beaucoup d'enfants, ils sont pas motivés à l'école. Et je remarquais que ces enfants dont on me disait qu'ils n'étaient pas motivés à l'école, souvent ils n'étaient pas non plus intéressés à la vie de famille. Tout se passait pour eux comme si ils étaient un peu spectateurs de la vie de famille. Ils ne savaient pas qui faisait quoi. Ils ne savaient pas quelquefois à 9, 10 ans quelle était la profession du père, de la mère, dans quelle classe étaient les frères et sœurs. Véritablement, tout se passait comme si chacun vivait de son côté par rapport à cela et qu'il n'y a pas du tout d'intérêt à la vie quotidienne. Il n'y avait pas de projet de la famille. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Aux vacances, ou est-ce que j'en sais rien du tout. Vous voyez, il n'y avait pas du tout d'intérêt à des choses très, très concrètes, très quotidiennes. À l'inverse, l'enfant qui est dans ça, il y a véritablement une dynamique de l'apprentissage au quotidien qui se transfère, y compris à l'école et pas seulement.
Dans quelques instants, d'autres conseils pour susciter l'envie d'apprendre chez les enfants et chez les adolescents. Je vous propose d'écouter MC Solar, le nouveau western qui rappellera des souvenirs de jeunesse à l'équipe, Alexia Rivière et Camille Poux-Jalaguier à la préparation et Claire Destacan à la réalisation. Notre stagiaire, Victorien Thomas, n'était même pas né en 1993.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les States sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien le mal, Lucky Luke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Yeah. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Sitting Bull. Cauchy. Calamity Jane. Jam. Jam. West. West. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le king. Billy King. Miguelito Loveless.
MC Solar, le nouveau western.
C'est pas extrêmement grave de pas arriver à tout, hein.
Grand bien vous fasse.
Si c'est une école de la patience, la pédagogie, il faut pas se précipiter.
Ali Rebéi.
Un enfant peut passer d'une situation d'échec à une situation de réussite.
Sur France Inter.
10h34, comment donner l'envie d'apprendre aux enfants et aux adolescents? Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 ou nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter.
Dernière règle, la concentration. Maîtriser sa concentration est essentiel pour être plus efficace. Alors, qu'est-ce qui gêne la concentration? Bon, alors, qu'est-ce qui gêne la concentration?
Sérieusement, moi, c'est l'ennui qui me déconcentre. Franchement, je suis en cours, quand le cours est chiant, et ben, je pense à autre chose.
Ah, voilà, ça c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on retient beaucoup mieux une information quand elle est étonnante ou amusante. Par exemple, en histoire, il vaut mieux essayer de retenir les grands événements par des petites anecdotes, tu vois.
Du genre quoi?
Le jour où Hitler a envahi la Pologne, il avait une diarrhée épouvantable.
C'est vrai?
Non, c'est pas vrai, mais c'est ce qui fait que tu t'en rappelleras.
Extrait de la série « Fais pas ci, fais pas ça ». Alors, beaucoup, beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Mon enfant, mon ado s'ennuie en classe, il ne s'intéresse à rien. Jean-Luc Aubert, que faire? Vous publiez « Comment motiver son enfant à l'école
?» Que faire? Bah, c'est-à-dire...
On a trois heures, hein,
trois heures. Donc, on a dit que les parents vont jouer un grand rôle, effectivement, dans l'accompagnement, mais il y a aussi l'enseignant, bien évidemment. Il y a des enseignants qui arrivent à motiver. Alors, vous avez peut-être connu, moi je n'en ai pas connu, mais vous avez peut-être connu un enseignant qui vous a enthousiasmé pour telle ou telle discipline. C'est ce que j'appelle les motivations électives. On retrouve ça dans le cercle des poètes disparus également. Je cite un exemple dans mon ouvrage, l'exemple de Sacha Guitry, qui était un cancre célèbre. À telle enseigne, disait-il, que ma mère craignait que je ne me marie en sixième, tellement il avait redoublé. Et ensuite, ceci étant, son père, dès l'âge de 5 ans, l'avait emmené jouer à la cour du tsar Alexandre III, le père de Nicolas II. Et dès l'âge de 5 ans, son père l'avait mis dans le théâtre immédiatement et partageait avec lui ce plaisir. Le principe de plaisir partagé d'une passion d'un enseignant ou d'un grand-père, d'une grand-mère, de que sais-je, effectivement, ça génère ce que j'appelle les passions électives, les motivations électives. C'est-à-dire qu'on est passionné pour telle ou telle discipline. Quelquefois, c'est au détriment des autres, d'ailleurs. On voit bien pour Sacha Guitry en particulier. Donc là, il y a à la fois le parent, il y a l'enseignant, puis il y a aussi ce que l'enseignant doit véhiculer. On vient parler dans l'anecdote, le cas de l'histoire. Il est bien évident qu'apprendre la chronologie historique en primaire, c'est complètement absurde, ça ne correspond à rien, c'est trop abstrait pour l'enfant. Leur apprendre des petites histoires, à parler des dinosaures à un enfant de 4-5 ans, et il va être enthousiasmé.
Il adore ça.
Si vous en parlez ultérieurement, il s'en fiche complètement.
Mmh. Mmh. Cécile Laverre, je rappelle, vous êtes enseignante à l'école Vitruve à Paris.
Oui. Alors, en fait, je suis d'accord sur certains points, mais je pense aussi qu'il faut rendre l'enfant acteur. Ça veut dire qu'il doit, si on dépend d'un professeur, c'est là où il y a un problème. Parce que malheureusement, il y a des chances que sur le nombre de professeurs qu'on rencontre dans sa vie, il y en ait quelques-uns, peut-être avec qui on ne s'entende pas ou ça ne matche pas, comme on dit chez les jeunes. Mais je pense qu'il faut surtout leur apprendre à comprendre pourquoi ils apprennent, qu'ils aient du sens à ce qu'ils fassent et qu'ils soient capables de s'auto-évaluer, de voir là où ils ont des besoins, de là où ils ont des manques, pour qu'ils soient en capacité de prendre l'information, l'aide là où ils en ont le plus besoin. Un enfant qui dit « je suis nul en maths, c'est un fait, c'est terminé, c'est fichu », il faut l'aider à s'évaluer, s'auto-évaluer pour qu'il se dise « là où j'ai des difficultés en mathématiques, c'est là-dessus, j'ai besoin de travailler ça, comment je peux y arriver ?» C'est plus intéressant que de se dire ça dépend d'une discipline. En fait, c'est responsabiliser l'enfant pour grandir, savoir qu'il apprend pour grandir, et pour grandir, il a besoin d'apprendre des choses, et quand il n'y arrive pas, comment faire ? Donner du sens à ce qu'il fait. Et c'est pour ça, souvent, que ça bloque, c'est quand on a une vision trop disciplinaire de l'enseignement, et on lui dit, là, maintenant, c'est des maths. Oui, mais des maths pour des maths, sans comprendre quel est le but, quel est l'objectif, c'est beaucoup trop abstrait, et c'est là que le désintérêt et l'ennui peut intervenir. Alors que si on a un projet dans lequel on se dit qu'on a besoin des mathématiques, parce que ça nous aide, comme vous disiez, par exemple, les recettes de cuisine à la maison, ça se fait à l'école aussi. Si on a le projet de faire un banquet pour son école, il faut bien faire des calculs de quantité. Et là, les mathématiques deviennent intéressantes et on s'y colle, même si on n'a pas envie.
Didier Pleu, je rappelle que vous êtes psychologue clinicien.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec le dernier témoignage. Il faut faire avec le réel, parce qu'effectivement, l'enseignant ou l'enseignement n'est pas forcément très motivant. Donc, il y a des stratégies.
Lesquelles ?
Les stratégies, d'abord, souvent, on ne sollicite pas assez les enfants ados sur l'objectif professionnel. C'est un peu comme si on leur disait, tu vas à l'école, tu vas tirer, tu vas avoir un arc et il n'y a pas de cible. Tire à l'arc sensible. Donc c'est absurde. Il faut parler des objets professionnels, que les enfants ados puissent rêver un métier et faire le lien avec l'apprentissage scolaire. Il faut des tas de méthodes aussi de gestion du temps. Gestion du temps, technique salami, c'est-à-dire saucissonner un apprentissage et pas non plus pas attendre en procrastinant le dernier jour pour faire je ne sais quoi, une heure de thème latin alors qu'on n'a pas pu séquencer les choses et qui sont beaucoup plus digestes. Donc c'est ça la technique du saucisson, rendre digeste un apprentissage, organiser le milieu, et ça c'est l'affaire des parents, c'est-à-dire lutter contre tous les parasites, les écrans qui, eux, sont dans la satisfaction immédiate et qui vont à l'inverse de ce qu'on demande dans l'apprentissage, qui est l'hédonisme à moyen et long terme. Si un enfant est tout le temps dans l'immédiateté de la résolution, dans sa curiosité avec des écrans, il ne va pas pouvoir se motiver. Puis, bien sûr, donner des habitudes à l'enfant, des habitudes du déplaisant. Hein, vous savez, je répète, c'est le solfège en musique, c'est les activités de loisirs, plutôt jardin que les écrans, du sport, des choses comme ça, qui vont lui apprendre qu'il y a des habitudes de choses difficiles, frustrantes, et il faudra faire le pont avec l'apprentissage scolaire.
Et notre réalisatrice Claire Destacan me disait l'importance du stage de troisième, hein, de découverte du milieu professionnel. Gounelle Boulet, vous vouliez intervenir.
Oui, il y avait un mot aussi tout à l'heure qui il s'intéresse à rien. En fait, ce qui est compliqué, c'est que pendant l'enfance, on partage énormément de choses à la maison et on trouve ça adorable qu'ils s'intéressent pour telle chose ou telle chose. Arrivé à l'adolescence, ils se renferment un petit peu sur leur monde et nous, en tant que parents, on ne voit plus ce à quoi ils s'intéressent, ce qui n'est pas la même chose. Et ça, je trouve que c'est important en tant que parents, même si parfois les ados nous désespèrent et qu'on trouve voilà, leur centre d'intérêt un petit peu futile ou autre, mais on a aussi des centres d'intérêt futiles en tant qu'adultes.
Pas moi.
De continuer à prendre le temps de quand même leur demander ce à quoi ils s'intéressent, parce que c'est pas vrai qu'ils s'intéressent à rien. Et il se trouve que le scolaire propose un certain nombre de savoirs, un certain nombre de domaines d'activité. Et qu'il faut continuer à s'intéresser à ça pour voir qu'au fond d'eux, ils s'intéressent à plein de choses.
J'aimerais qu'on s'arrête sur une chose très importante, Jean-Luc Aubert. Pour qu'un enfant soit motivé à l'apprentissage, il est nécessaire qu'il soit dans de bonnes dispositions, vous le disiez au tout début de l'émission, de bonnes dispositions physiques et psychiques. C'est absolument fondamental.
Bien sûr, il faut qu'il soit disponible à la fois physiquement et psychiquement. Alors physiquement, c'est assez facile à comprendre. Un enfant qui est fatigué, un enfant qui est malade, j'allais dire, quelle que soit sa motivation, ça ne marchera pas. Véritablement, c'est aussi un préalable à ça. Ça va en parallèle avec la motivation. Donc, il faut un rythme de vie à peu près globalement régulier, là aussi pas parfait, mais globalement régulier, qui va lui permettre de mobiliser son énergie pour les apprentissages. Elle ne se dispersera pas dans une réadaptation permanente. La disponibilité psychique, c'est pareil, il y a deux pôles. Il y a la disponibilité psychique consciente et inconsciente. La consciente, on voit bien ce que c'est, c'est-à-dire qu'il y a un souci à la maison, des tensions, une séparation, une maladie, quelque chose comme ça. Bon, on peut objectiver, on sait ce qui ne va pas. Et quand l'enseignant est au courant par rapport à ça, il peut effectivement prendre en compte cette indisponibilité momentanée. Mais l'autre indisponibilité, c'est difficile à dire, c'est celle qui est inconsciente. Alors là, elle est beaucoup plus difficile à comprendre et c'est une des causes importantes des difficultés scolaires. C'est quoi ? C'est l'enfant qui a mis en place chez lui des processus adaptatifs ou défensifs particuliers liés à une situation particulière. On va prendre l'exemple un petit peu caricatural. L'enfant qui est dans la violence permanente, par exemple, il va s'adapter sur le plan psychique à cette violence. Il va mettre en place des processus défensifs ou adaptatifs qui sont adaptés à ce schéma familial. Parce que c'est la façon pour lui de survivre. Soit qu'il va se replier sur lui-même, soit qu'il va bouger beaucoup. Il va s'adapter à cette situation. Le problème, c'est que ce processus qui est mis en place chez lui au quotidien pour sa survie psychique, eh bien, il sera tout à fait inadapté pour les apprentissages scolaires. Et à l'école, on se demandera, mais pourquoi il est replié dans son coin, pourquoi il bouge tout le temps, alors qu'il n'y a pas de raison, il est dans un cadre sécurisant. Mais ce qu'il a mis en place chez lui au quotidien qui lui permet de survivre, eh bien ça fonctionne toujours, et si on ne met pas quelque chose dessus, des mots là-dessus, et si on ne l'aide pas à dépasser cela, eh bien il sera indisponible psychiquement.
Et il ne faut pas hésiter à consulter un psychologue dans ces cas-là. Et Françoise nous écrit, j'ai été infirmière scolaire, je voulais rappeler cette phrase de Daniel Pénac, on ne peut rien tirer d'un enfant qui a peur, encore moins d'un enfant qui a du chagrin. Très belle formule. Allez, il est temps de retrouver la chronique Ma vie de parent de Gounelle Boulet.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Gounelle Boulet, qui dit école, dit devoir à la maison, un sujet qui vous a complètement inspiré.
Oui. Oui. D'ailleurs, je suis très contente d'être avec vous ce matin, plutôt que d'être en train de faire réviser la table des 4. Ou pire, la table des 7. Surtout quand c'est le petit troisième, vous commencez à bien la connaître, la table des 7.
Mais vous, Gwenaëlle, vous êtes plutôt calme avec vos enfants, vous n'avez pas de problème avec les devoirs.
Moi, mais...
Vous qui êtes directrice d'Astrapi.
Ah oui. Moi, mais bien sûr, je suis l'incarnation du calme et de la patience. Je suis le Dalai Lama des devoirs, le petit bambou des leçons d'histoire géo, la Maria Montessori du calcul mental, une pédagogue née. Mais non, bien sûr que non, j'ai aucune patience en matière de devoirs. En même temps, ce qui est pas mal, c'est que je me suis très vite aperçue de mes limites dans ce domaine. Je peux même vous dater le jour où j'ai réduit au maximum mon lien avec le devoir de mes enfants et où nous avons tous retrouvé une forme de sérénité.
Ah oui, carrément. Ouais.
Oui, ma fille était en CP, c'était un soir vers le mois de décembre. Petite lecture de texte sur un lapin qui mange une carotte. Mais bon, ce jour-là, le déchiffrage était franchement laborieux et ma fille pas hyper concentrée sur la tâche. Moi, je pensais surtout à tout ce que j'avais à faire à ce moment-là, et cette lecture n'en finissait pas. Alors soudain, en plein milieu du lapin qui mange sa caca, « Ah maman, il a fait caca le lapin, il mange du caca !» Voilà, je me suis mise à hurler de façon légèrement hystérique quelque chose du genre « Mais concentre-toi, bon Dieu, c'est quand même pas compliqué !» En plus fort et en moins poli, bien sûr. Oui, je sais, c'est mal, c'est très, très mal d'hurler sur son enfant. Mais bon, voilà, la patience n'étant pas mon fort, les lenteurs de l'apprentissage sont parfois au-dessus de mes forces.
Et vous avez donc réagi?
Oui. En voyant le visage déconfit de ma fille, je me suis dit qu'on partait sur de très mauvaises bases. Mon mari avait déjà vécu quelques scènes épiques avec mon beau fiston sur le sujet, alors si j'étais déjà dans cet état avec elle en CP, ça n'allait pas du tout le faire. J'ai donc fait appel au dieu d'internet qui, après quelques mots tapés du style « devoir, enfant, parent, crise, aide », m'a proposé un vieux livre de Philippe Mérieux intitulé « Les devoirs à la maison pour en finir avec ce casse-tête ». Et bingo, dans ce livre, que l'on peut trouver encore d'occasion je crois, le célèbre pédagogue Philippe Mérieux retrace brillamment tout ce qui se joue affectivement entre un parent et son enfant au moment des devoirs. Outre le fait que les devoirs à la maison aggravent les inégalités sociales et sont donc normalement interdits, ces instants sont trop souvent, comme il le dit, saturés d'affectivité. Nous tous qui nous rêvons en pédagogue né, capable d'expliquer sereinement toutes les ficelles du calcul et de la grammaire à nos enfants, Mérieux nous redit en quoi ceci est tout simplement un métier, avec des compétences particulières, et que vouloir s'y confronter coûte que coûte avec son enfant, au prix parfois de terribles tensions, confrontations, crispations et autres déceptions, est très souvent contre-productif et source de souffrance. Alors, à ce stade de ma lecture, je me sentais déjà soulagée. C'est bon, j'étais pas la seule à perdre mes nerfs sur une histoire de lapin, de table des sept ou de leçon sur les Gaulois. Et au fil de la lecture, je mettais dans un coin de ma tête plein d'idées, comme « Non, la réussite scolaire ne doit jamais être une preuve d'affection, et le calcul de l'hypoténuse n'a rien à voir avec une histoire d'amour. » Ou « Ça serait si il y avait une formule miracle pour déclencher le fameux déclic chez l'enfant. » Ou encore « Apprendre une leçon est une chose immensément difficile et on l'a oublié. » Mais surtout, au milieu de cette mine pédagogique, j'ai lu qu'en gros, quand ça se passait pas bien, mieux valait tenter l'autonomie ou confier le moment des devoirs à d'autres. Babysitter quand on le peut, temps d'études surveillées, voisines, et que non, c'était pas de la démission ni un manque d'attention, mais au contraire, peut-être la solution pour apaiser les relations. En fait, a posteriori, je sais pas si cette phrase existe vraiment dans le livre, mais j'ai senti qu'elle était peut-être la clé du succès. Et que ce succès ne rimait pas forcément avec un enchaînement de bonnes notes à la clé, mais une vie de famille un peu plus apaisée. Des engueulades évitées, du temps retrouvé pour faire d'autres choses ensemble, comme des jeux de société ou de la cuisine. Génial, non? Alors voilà, depuis j'ai pas mal lâché, même si j'avoue que de temps en temps, un petit coup de Mésopotamie ou de conjugaison du verbe moudre au plus que parfait ne fait pas de mal avec ma culture générale.
Cécile Laverge, je rappelle que vous êtes enseignante.
Et effectivement, à l'école élémentaire, il n'y a pas de devoir écrit. Il peut y avoir des mots à apprendre, des leçons, des petites choses comme ça, mais ça s'apprend. On apprend à apprendre et ça prend du temps. Et les parents ont l'impression que tout se joue à la maison, alors qu'en fait, ça s'est joué à l'école et que le soir, il faut peut-être les laisser se détendre un peu parce que la journée est bien longue.
Jean-Luc Aubert,
le parent est le plus mauvais pédagogue qui soit, forcément, parce que le parent est anxieux. Il est anxieux de la réussite de son enfant et voir que ça ne marche pas tout de suite, ça génère des réactions souvent inappropriées. On s'énerve, on crie dessus.
Ah bah tiens,
donc, trouver un médiateur, c'est pas médiateur neutre, c'est pas mal.
Justement, Gwenaëlle Boulay, vous n'êtes pas la seule à perdre patience avec les devoirs.
Alors, ah voilà, c'est ça, cahier du soir. Dictée, parfait. Dictée. Rien, maman se concentre. Eh ben, prends. Tu as le papier stylo? Parfait. Alors, là. Temps. Là. Voilà. C'est bien, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien. Non, on s'en fout de la petite queue du A. On s'en fout. Non, je te. Non, ne refais pas. Ne refais pas! Oh, elle refait, putain, elle refait. C'est bon? Voilà, elle est très jolie, on n'y touche plus. La tortue. Tortue. La tortue. Mais c'est féminin, tortue. Si, c'est toutes des filles, elles ont des chapeaux en osier avec des marguerites, donc je le sais. Voilà, la tortue, très bien. A. Non, plus loin. La tortue A, très bien. Une. Foulée en chiffres, on s'en fout. Foulée en chiffres, une. Voilà. Kéké la tortue, une. Carapace. Oh putain. Carapace. Attends une seconde chérie, dessine-la, maman se repose.
Florence Foresti, la nouvelle amie de Gwenaëlle Boulay. Ma vie de parent, c'est la chronique de Gwenaëlle Boulay à podcaster sur l'appli France Inter et à partager sur vos réseaux sociaux. Dans un instant, continuez à vous délivrer des conseils pour motiver vos enfants et vos adolescents à l'école. Et on écoute Billie Eilish, Happier Than Ever.
I'm happier than ever. I could explain it better. I wish it wasn't true. You called me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty. You make me hate this city, and I don't talk shit about you on the internet. Never told anyone anything bad, 'cause that's just embarrassing. You were my everything, and all the two things make me fucking sad. So don't waste the time I don't have. Don't try to make me feel bad. I could talk about every time that you showed up on time, but I have an empty line, 'cause you never did, never paid any minds of mine. But you were friends, so I shut them all out for you, 'cause I was a kid.
Billie Eilish interprétait Happier Than Ever.
Grand bien vous fasse, Ali Rebi, sur France Inter.
10h52, comment donner envie d'apprendre aux enfants, aux adolescents, c'est notre thème ce matin. Et nous accueillons Myriam qui nous a appelé au 01 45 24 7000. Bienvenue Myriam.
Oui, bonjour, merci à vous de prendre mon appel.
Allez-y, on vous écoute.
Alors, bah écoutez, je sais que j'ai peu de temps, donc pour parler de tout, ça va être compliqué.
Allez-y.
Alors, je vais procéder comme un brainstorming. Alors, j'ai noté des mots là dans ce qui a été dit, et après je verbaliserai un peu plus. Alors, motivation, frustration, parents, enfants, enseignants, responsable, sens, langage, grandir, autonomie, stratégie, gestion du temps, écran. Bon, il y en a d'autres. Hein. Alors moi, je suis enseignante depuis plus de 25 ans. Donc j'ai enseigné de l'école maternelle en passant par des FECPA, donc avec des adolescents en difficulté. Et bon, à l'école élémentaire. Donc j'ai une idée de ce qui se passe dans les différents niveaux, dans les enseignements spécialisés également, et dans différentes régions. Voilà. Et je note quand même que au cours du temps, il y a des changements. Ça paraît un peu une apalissade ce que je suis en train de raconter, mais il y a des changements au niveau de notamment de la surexposition des enfants aux écrans. Mmh. Et moi, j'ai toujours eu comme objectif dans ma pédagogie, c'est de ne pas suivre les modes pédagogiques qu'on nous impose à droite, à gauche, qui seront bienfaitrices, etc. Il y a des biens et des pas biens. Moi, ce que je trouve qui est très important, c'est, par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu parler de bonne disposition chez l'enfant. Mmh. Donc, quand on est enseignant dans sa classe, on a affaire à plein d'enfants différents qui sont des sujets, et avec des plus ou moins bonnes dispositions, chacun son histoire. Mais l'avantage de l'école, c'est que justement, l'enfant, il peut un petit peu déposer ses bagages à l'entrée et être un petit peu nouveau à l'école et se faire table rase du reste. Donc, si le langage est là, si on met du sens, qui est très important, si l'autonomie est là, on peut déjà donner à l'enfant des cartes qui vont lui permettre de réaliser qu'à l'école, on fonctionne d'une manière.
Et Myriam, je me permets de vous interrompre parce que Cécile Laverre, qui est enseignante comme vous, a envie de réagir à ce que vous disiez.
Oui, d'accord.
Oui, Alors, je pense qu'on peut déposer une partie de son bagage à l'école le matin, et puis, mais ça, je suis d'accord avec vous, mais que, il y a un moment où c'est plus possible selon ce qui nous arrive, et que justement ce qui est demandé aux enseignants de plus en plus, c'est pas seulement d'instruire, mais c'est d'avoir une vision globale de l'enfant et de travailler avec les familles, avec les réseaux d'aide, avec tous les soutiens qu'on a pour essayer justement de rendre la situation vivable pour l'enfant, pour qu'il soit disponible en classe. Et on peut pas passer outre certaines problématiques, ce qui fait que c'est très chronophage effectivement quand on a beaucoup d'enfants, de prendre en compte leurs difficultés, les faire évoluer avec les partenaires extérieurs et la famille.
Merci beaucoup Myriam de nous avoir appelé. Gwenaëlle Boulet.
Oui, par exemple dans les témoignages d'enfants qui vivent des violences à la maison, y compris des violences sur eux, on voit deux types de témoignages. Il y a les enfants qui justement deviennent d'excellents élèves parce que l'école est une bulle dans laquelle ils vont justement pouvoir vivre autre chose que ces violences. Et puis il y a des traumatismes qui sont tels qu'on ne peut plus mobiliser son cerveau pour des savoirs. Donc ça, vous pouvez avoir différents types, mais c'est pas vrai qu'on puisse laisser ses bagages à l'entrée de l'école, malheureusement.
Au terme de cette émission, quels sont vos commandements, vos conseils fondamentaux pour donner aux enfants, aux adolescents, l'envie d'apprendre, Jean-Luc Aubert?
Le premier, c'est qu'il faut s'intéresser à l'enfant si on veut qu'il s'intéresse à nous ou à l'école ou à autre chose. C'est véritablement le point de départ de tout. Intéressons-nous à nos enfants, parlons avec eux au quotidien, c'est ce que je disais tout à l'heure, des choses très simples de la vie de tous les jours, de la dynamique familiale, des projets, de ce qu'on va faire, de qui fait quoi, comment, pourquoi. Et véritablement cet attrait, ce plaisir d'apprendre sur ce qui se passe au quotidien, se transférera à l'école et aussi dans d'autres domaines, parce qu'il n'y a pas que l'école dans la vie.
Cécile Lavert.
Oui, je dirais aussi laisser le temps aux enfants d'apprendre, qu'ils n'ont pas tous le même rythme, qu'il n'y a pas une date à laquelle on doit savoir lire et sinon on est en retard, oui on en avance, et faire confiance à son enfant qui est plein de ressources et ne pas lui transmettre son anxiété pour sa vie future de citoyen, parce que c'est aussi comme ça qu'on met des objectifs qui sont inatteignables pour certains et que ça ne les met pas en bonne disposition pour apprendre.
Didier Pleu.
Ben, moi, ce serait simplement privilégier le bon sens, c'est-à-dire de quoi ont besoin nos enfants ados actuellement. Je crois qu'ils sont très fragiles devant le pas fun, le déplaisant, faut les aider. Et surtout, j'avais un petit peu peur parce que ne pas aller tout de suite chez le psy quand il y a un problème de blocage, hein, il n'y a pas forcément un sens derrière le problème de blocage scolaire. C'était vrai il y a 30 ans, mais maintenant, il y a surtout un problème éducatif. Donc, gardons le bon sens.
Gwenaëlle Boulet.
Oui, non, mais ça rejoint un peu sur la question de la peur d'échouer, par exemple. Moi, je trouve que tout ce qu'on peut mettre en place pour éviter d'être dans la peur de l'échec, etc., va pouvoir quand même permettre d'être dans un certain apaisement face aux connaissances, à l'apprentissage et à la mise en route de ces apprentissages.
Merci beaucoup, Cécile Lavert, d'être venue ce matin. Merci beaucoup, Didier Pleu. Merci, Jean-Luc Aubert. Comment motiver son enfant à l'école? Ça vient de sortir, Chadi Jacob. Et votre chaîne YouTube? Vous êtes jeune, fun, vous avez une chaîne YouTube?
Elle s'appelle Question de psy.
Merci beaucoup. Vous pouvez podcaster cette émission sur l'appli France Inter et sur toutes les plateformes et la partager autour de vous. Demain, on se demande s'il y a vraiment davantage de surdoués chez nos enfants. On les appelle enfants précoces, enfants à haut potentiel, les fameux HPI ou encore zèbres. Je n'arrête pas de croiser des parents qui me parlent des capacités exceptionnelles de leur progéniture. On verra si c'est vraiment le cas demain. N'hésitez pas à témoigner dès maintenant en laissant une note vocale ou un message sur l'appli France Inter.